Vous écoutez
RMC. RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein.
Mais j'espère que la route va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Timothée Mémon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After, c'est jusqu'à minuit, on a un programme très très riche à vous proposer aujourd'hui puisque Riyad Boudbouz, la recrue phare pour le moment de l'AS Saint-Etienne, sera avec nous. Il vient remplacer poste pour poste Rémi Cabella. Dans une petite demi-heure, c'est Olivier Dalloglio qui viendra nous parler de Brest à 10 jours de la reprise de la Ligue 1. On va vous faire découvrir les petits, c'est important pour MPG, c'est important aussi pour suivre la Ligue 1 cette saison. Il y aura le Mercato Show évidemment avec Saber Défa, toutes les informations Mercato. Et puis dans la deuxième heure, on va jouer ensemble avec le hashtag mon joueur de cœur. On vous demande tout simplement de nous dire quel joueur dans votre club de cœur vous a un petit peu fait rêver. Pas forcément le meilleur, pas forcément celui qui a fait gagner une coupe, mais celui qui a une place particulière, qui vous fait un petit peu briller les yeux quand vous regardez derrière vous le rail du PSG, le Darrocha de Nantes, le Cédric Forêt de Reims. Bref, c'est à vous de choisir. Vous pouvez d'ores et déjà voter puis nous rejoindre évidemment au 32-16. L'after, c'est donc jusqu'à minuit sur RMC Sport News en télé, sur RMC à la radio ou en direct sur votre smartphone via Direct Studio. Pour nous accompagner aujourd'hui, un casting de choix, c'est le plus coréen des Irlandais, c'est notre bulgogi sauce whisky, notre cold canon au soju, c'est Jonathan Macardy.
Salut Tim, ça va?
Salut à tous. Et puis c'est le plus polonais des messins, du coup c'est notre pâté lorrain sauce vodka, notre borscht à la Mirabelle, Ludovic Obraniak. Salut.
Salut à tous.
Salut à tous. On va évidemment tout de suite et bien se pencher sur le premier sujet de cet after. On a beaucoup de chance parce qu'on l'a pas beaucoup entendu depuis son arrivée à l'AS Saint-Etienne. C'est Riyad Boudbouz qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous en direct. Il est avec nous depuis l'Angleterre où il a déjà disputé un match amical, où l'AS Saint-Etienne a déjà disputé un match amical face à Middlesbrough. Les Verts affronteront Newcastle samedi. Bonjour, bonsoir Riyad.
Bonsoir, bonsoir à vous.
Salut Riyad.
Salut Riyad.
Merci beaucoup d'être avec nous. Le stage et la mise au vert se passent bien, rien à signaler?
Non, très bien, très bien. Il fait un petit peu froid, mais ça fait du bien quand on arrive de Séville.
Effectivement. Alors on va commencer, on va rentrer directement dans le sujet, Riyad, si tu le veux bien. Tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé ta volonté de revenir dans le championnat français?
Bah déjà, c'est un championnat que je connais très bien et que j'apprécie. Après, c'est sûr qu'arriver à Saint-Etienne, pour moi, c'était une offre que je pouvais pas rater. C'est un très grand club avec un public et surtout, Ghislain que je connais très bien. Il y a beaucoup de joueurs aussi que je connais.
Wabi
qui évoluait. Yann aussi en équipe de France plus jeune. Donc pour moi, il n'y a pas eu d'hésitation.
Justement, Ghislain Printemps, il t'a coaché entre 2014 et 2015 à Bastia. Ça a pesé dans le choix? T'as beaucoup discuté avec lui avant de prendre ta décision?
Bah écoute, sans te mentir, on a discuté une seule fois et j'étais d'accord, il était d'accord et même on avait déjà discuté auparavant et on entretient une bonne relation et de temps en temps on s'appelle pour prendre des nouvelles et voilà, donc pour moi j'ai pas hésité une seconde.
Quelles sont tes ambitions à titre personnel et les ambitions collectives avec l'AS Saint-Etienne?
Bah personnellement, je me suis rien fixé. J'ai envie de retrouver mon meilleur niveau et d'aider l'équipe à gagner des matchs. Après, franchement, on verra. Pour l'instant, le plus important, c'est d'être au top pour le championnat et remporter le maximum de matchs.
Et collectivement, tu sens cette formation de Saint-Etienne armée pour jouer sur plusieurs tableaux, puisqu'il faudra jouer la Ligue 1, les Coupes Nationales, mais aussi la Coupe d'Europe cette saison avec l'Europa League.
Bah, quand on est joueur, on a envie de faire de bonnes choses dans toutes les coupes. Et après, moi, je suis un compétiteur. Tous les matchs, j'ai envie de les gagner. Et aujourd'hui, je pense que voilà, faut voir comment la saison va évoluer. Mais faut pas se précipiter aussi, car on a beaucoup de joueurs, on a beaucoup de jeunes aussi. Donc, faudra prendre le temps de bien faire les choses. Et moi, je suis confiant. Je suis là depuis 3-4 jours et je vois que voilà, il y a une très bonne équipe.
Riyad Boudbouz est avec nous dans l'after. Vous êtes venu d'une certaine manière pour remplacer Rémi Cabella. La Saint-Etienne a eu une belle offre pour Rémi Cabella qui est parti pour 12 millions à Krasnodar. Ils ont lié la possibilité de ce départ au fait de recruter son remplaçant. ans, c'est vous. Est-ce que vous avez la sensation d'être un joueur dans le même registre que Rémi Cabella, ou alors est-ce qu'il y a des différences, et si oui, lesquelles?
Bah, pour moi, c'est un petit peu similaire. Rémi est un joueur aussi qui aime se mettre entre les lignes, toucher la balle et donner des bons ballons, et quand il peut mettre des buts. Après, je vais essayer de tenir ce rôle, de me placer entre les lignes pour donner des ballons aux attaquants, et quand je peux finir à mettre le ballon au fond, ouais, ça serait déjà bien. Donc, pour moi, je me prends pas la tête. Je sais qu'avec du travail, tout va bien se passer.
Riyad, bonsoir. Écoutez, on a eu la chance, Ludo Bragnac et moi, l'année dernière, de commenter beaucoup de matchs de Saint-Etienne. Et il y a une chose qui nous sautait aux yeux, c'est que malgré l'accumulation de talent au sein de cette équipe, offensif, on a toujours senti que le duo Cabella-Cazerie manquait de complémentarité et qu'ils avaient tendance un petit peu à se marcher sur les pieds. Vous avez déjà joué avec Wahbi Cazerie à Bastia. Et au contraire, on sentait qu'entre vous deux, ça marchait plutôt bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre complicité sur le terrain? Comment vous arrivez à vous trouver? Qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous vous situez par rapport à Wahbi Cazerie?
Bah, moi, quand je joue, j'aime bien jouer avec. J'aime bien redoubler avec les joueurs, on va dire, techniques. Ça se passait bien aussi avec Marvin Martin quand on était plus jeune. Avec Wahbi, c'est pareil, c'est un joueur assez technique. Donc, inconsciemment, sur le terrain, on se trouve plus facilement. Aujourd'hui, il y a aussi Denis Bouanga. Dès les premiers entraînements, je m'entends aussi super bien. Et moi, franchement, je suis pas un joueur qui va calculer. Si tant que l'équipe elle gagne et que ça marche, moi ça me va. Donc j'espère que ça fonctionnera comme ça toute l'année, parce que il y a beaucoup de qualité aujourd'hui dans ce groupe et faudra le démontrer sur le terrain.
Saint-Etienne, sur les dernières saisons, on va dire sur les 10 dernières années, a pas vraiment l'image d'une équipe de créatifs, d'une équipe de joueurs extrêmement techniques. Il y en a eu, hein, il y a eu Gradel, il y a eu Aubameyang, mais c'était pas le fond de commerce de l'AS Saint-Etienne. Est-ce qu'avec Bonga, avec Amouma, avec Cazerie, avec vous-même, est-ce que vous avez la sensation que justement cette année, il y a de quoi avoir une équipe, ce qu'on appelle une équipe aussi vraiment technique, Nordin également, qui est capable de certaines choses techniquement?
Bah, il y a beaucoup de joueurs très techniques maintenant. Maintenant, je pense qu'il faut pas aussi oublier qu'il faut défendre, parce que si on défend pas, on va aller perdre les matchs. Après, c'est sûr qu'il y a des joueurs pour moi, qui sont très très techniques, mais j'espère que ça va fonctionner.
On parlait tout à l'heure de Rémi Cabella. Vous avez conscience qu'au moins au début, chacune de vos prestations va peut-être être un peu jugée en comparaison avec ce que faisait Cabella, notamment sur la fin de saison, parce que Cabella, oui, il y a eu du bon et du moins bon, mais sur la fin de saison dernière, il a quand même, avec Wahbi Cazerie, porté cette équipe de Saint-Etienne. Vous pensez que ça peut être gênant comme position d'arriver comme ça en remplaçant pur et dur, poste pour poste?
Ben Rémi, ce qu'il a fait pour le club, c'est assez exceptionnel. C'est sûr qu'on va vouloir nous comparer directement, mais aujourd'hui, moi, j'ai aucune crainte par rapport à ça. Je sais que je vais travailler. J'ai envie de bien faire, surtout qu'en Espagne, j'ai galéré, on va dire, pendant presque une année. Et aujourd'hui, je suis assez revanchard sur ce plan-là. Après, c'est aussi à moi de bien m'adapter à mes nouveaux partenaires, et ça, franchement, j'en doute pas. Je sais que même si ça prend un peu de temps, ça va aller.
Riyad Boudbouz est avec nous dans l'after. Merci beaucoup. Ludovic Obraniak a une question pour toi.
Salut Riyad. Bon, vous connaissez mon affection pour les meneurs de jeu gauchers, donc je suis content d'avoir Riyad au téléphone. Alors, je sais que techniquement, tu n'as rien perdu, mais honnêtement, où est-ce que tu en es physiquement? Parce que c'est vrai que ces deux années ont été un peu en dents de scie. Tu te sens prêt à attaquer le championnat de suite, ou il va te falloir encore un peu de temps pour pouvoir te remettre un peu au niveau?
Non, tu connais aussi bien que moi, la meilleure façon de retrouver son niveau, c'est de jouer. Après, même si au Betis, j'avais pas joué tous les matchs, j'étais là présent tous les entraînements. Quand je suis parti au Celta, les 15 derniers matchs, j'étais aussi assez souvent titulaire. Mais pendant l'année où j'ai eu un peu des difficultés, je me suis entraîné tous les jours, j'ai pas eu de pépin physique. Et aujourd'hui, pour garder la forme, il faut s'entraîner. Après, c'est sûr que en accumulant les matchs, je pense que ça sera encore mieux.
Parle-nous un peu de ton expérience en Espagne, justement, parce que bon, c'est vrai qu'on peut considérer que le Betis et le Celta Vigo sont deux très bonnes équipes du championnat espagnol. Pourquoi ça a été difficile de s'imposer? T'as une explication à ça?
Pas forcément. Après, ça fait partie du foot. C'est une autre vision. Quand t'arrives en Espagne, c'est aussi un autre football. Et voilà, le poste où je jouais aussi, c'était un peu compliqué. C'était pas comme en France. J'étais souvent derrière l'attaquant en France. Ouais. Et quand on te bascule sur un côté, on te demande de faire de faire autre chose. C'est aussi, voilà, j'ai eu un peu du mal à m'adapter. Et voilà, je dis pas que c'est la faute du coach du Betis ou quoi que ce soit. C'est aussi de la mienne. J'aurais dû mieux écouter, mieux apprendre. Et aujourd'hui, franchement, j'en tire que des bonnes leçons de ce passage en Espagne. J'ai appris beaucoup de choses et surtout notre culture. Et franchement, ça me servira. Quoi qu'il arrive, ça me servira.
Jonathan Macardé.
Riyad, quand vous parlez de leçons que vous avez tirées, c'est-à-dire sur le terrain, techniquement, tactiquement, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce qui vous a enrichi en Espagne?
Franchement, j'ai appris un peu sur tout. Déjà sur le terrain, tactiquement, c'est d'autres choses. Après, on demande d'aller plus vite avec le ballon. Et c'est une autre culture par rapport un peu à la France. Et voilà. Pour s'améliorer, il faut prendre un peu de partout. Et aujourd'hui,
vous pouvez nous détailler, Riyad, excuse-moi, je vous coupe, mais
langage,
vous pouvez nous détailler tactiquement quelles sont les différences.
J'ai eu des partenaires là-bas qui ont été très bien avec moi, même dans la difficulté, ils étaient là pour moi, ils m'ont aidé. Et voilà, c'est des bonnes choses de la vie, c'est des bonnes expériences, même pour la famille de voir autre chose, c'était enrichissant. Et aujourd'hui, moi, je suis plus un mec qui va tirer les bonnes leçons des choses comme ça que de penser négativement.
Riyad, excuse-moi, tactiquement, c'est quelles sont les différences que vous avez pu observer entre la France et l'Espagne?
C'est pas question de l'Espagne, c'est Quique Setién qui était au Betis, ouais. C'était un coach qui adorait jouer et qui, franchement, dans ma carrière, j'ai jamais vu quelque chose comme ça, qui veut vraiment ressortir la balle de derrière, jamais balancer, trouver des solutions. C'est même quand ça va pas, on perd des matchs, 3-4 matchs, il veut retrouver les solutions en jouant. C'est des choses que, des fois, il y a des coachs que quand ça va pas, on essaye de recentrer sur peut-être des ballons, ballons longs, deuxième ballon et des choses plus faciles. Mais lui, il était vraiment, il pensait vraiment qu'à jouer. Pour moi, c'était aussi bien d'apprendre des choses comme ça.
Riyad, tu as 29 ans maintenant. Est-ce que pour toi, tu envisages la possibilité? Alors, je sais, moi, je l'ai vécu au même âge que toi, au Werder de Brême, où ça s'est mal passé. J'avais aussi essayé de revenir en France, ce qui n'avait pas été le cas, parce qu'à l'époque, c'était difficile sur le marché de revenir quand tu n'avais pas joué pendant si longtemps à l'âge de 30 ans. Je suppose que tu as dû recevoir des offres de pays un peu plus exotiques. Comment tu envisages l'avenir? Est-ce que revenir à Saint-Etienne, c'est le confort de la Ligue 1, de revenir dans quelque chose que tu connais pour repartir à l'étranger, ou est-ce que tu t'inscris dans une optique de moyen terme et de finir peut-être ta carrière en Ligue 1?
Franchement, je pense pas déjà repartir. Je suis à Saint-Etienne et je suis 100% là. J'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable de faire des bonnes performances, d'aider l'équipe. Et après, dans le foot, tu sais comme moi, Comment ça peut se passer? Demain, il peut se passer des bonnes choses comme des moins bonnes. Et moi, je suis pas quelqu'un qui va penser, ouais, faut que dans 2 ans, je parte ici ou ailleurs. J'ai envie de rester ici pour l'instant, de m'installer dans ce club et d'aider mon équipe à gagner le maximum de matchs.
Oui. Riyad, en un mot, est-ce que vous venez vous relancer, ou le terme est mal choisi? C'est pas tout à fait ça.
Ouais, on peut le dire. Non, parce que c'était un peu plus difficile en Espagne, je viens à Saint-Etienne, voilà, pour déjà, voilà, j'ai envie de jouer, j'ai envie de prouver à tout le monde que voilà, j'ai toujours la qualité que j'avais à Montpellier, que tout le monde, on a pu entendre un peu des critiques, et ça, pour moi, c'est quelque chose où j'ai envie de prouver à tout le monde que je suis bien là et que voilà, je vais faire le maximum pour retrouver mon meilleur niveau.
Riyad, on va mettre le doigt là où ça fait mal, mais donc vous n'êtes pas passé à côté. On a tous vibré cet été pour la victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes le Ballon d'Or algérien 2011. Vous avez été sélectionné, vous avez connu cette sélection. Est-ce que vous avez dans le coin de votre tête quand même de vite réintégrer ce groupe qui est quand même assez prometteur et qui est en ligne de mire la prochaine Coupe du Monde?
Évidemment, on va pas se mentir. J'aimerais bien réintégrer l'équipe d'Algérie. Après, ce que le coach a fait aussi pour la CAN, on s'assoit et on applaudit et on dit bravo, parce que il a monté une équipe en peu de temps, une très bonne équipe, et l'équipe a gagné. Donc c'est à moi de faire encore plus d'efforts pour réintégrer l'équipe.
Ça vous a donné des regrets de pas en être?
Évidemment, moi j'aime mon pays, j'aurais aimé être là à pouvoir les aider pour gagner. Après, j'étais supporter, comme tous les Algériens.
Qu'est-ce qui prédomine, Riyad? C'est la joie d'avoir vu son équipe nationale gagner, ou le regret de ne pas y avoir été?
On est entre nous, vous pouvez le dire.
Non, la vérité, franchement, j'étais très très content de les voir gagner, heureusement. Mais après, j'aurais aimé être aussi de la fête.
Riyad Boudbouz, merci beaucoup. Très bonne chance pour cette saison avec l'AS Saint-Etienne, la saison de Ligue 1 qui commence à partir du week-end du 9 août.
Salut,
évidemment,
Riyad.
On vous suivra. On vous
merci.
Suivra
merci.
Également
merci,
Riyad, dans, en Coupe d'Europe puisque l'AS Saint-Etienne est qualifié pour la phase de groupe de l'Europa League. Merci beaucoup et une très bonne continuation pour votre stage en Angleterre. Messieurs, pour conclure, le choix de Saint-Etienne, là, la possibilité de faire 12 millions d'un côté pour Rémi Cabella et d'acheter pour 3,5 millions Riyad Boudbouz, c'est la grosse belle affaire pour, ou alors c'est un pari?
Pour les deux, parce que comme je te l'ai dit, aujourd'hui à 29 ans, quand t'as échoué à l'étranger et que t'as pas joué énormément, il est difficile de revenir dans un club UP de Ligue 1 ou même dans le championnat, dans les championnats européens. Donc pour Riyad, c'est un super moyen de relancer sa carrière, de retrouver de la confiance dans une équipe qui joue de plus en plus au football, qui joue avec un jeu de plus en plus porté vers l'avant, avec des joueurs avec qui il va avoir une relation technique. Après, moi, c'est savoir vraiment comment il va se situer. On le connaît, on sait qu'il aime bien partir comme beaucoup de gauchers, partir de la droite pour rentrer vers la gauche. Et là, il t'expliquait qu'en Espagne, il avait plus vraiment envie de jouer sur le côté. Donc, est-ce qu'il va jouer en tant que numéro 10? Est-ce qu'il va jouer sur le côté droit? Je me demande un peu comment ça va s'articuler du côté de Saint-Etienne.
Après, franchement, pour moi, c'est un des meilleurs coups de l'été. Parce que Rémi Cabella, on a beaucoup de sympathie pour lui. C'est un très bon joueur de foot, mais très franchement, mis à part les trois derniers mois, et je pense que Timothée, il n'y aurait pas mieux que toi pour dire si on se trompe ou pas, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné techniquement avec Wahbi Khadri.
Il y a eu des hauts et des bas, mais c'est vrai que les 4-5 derniers mois ont été quand même de bonne qualité. On a l'impression qu'enfin, Cabella lâchait un peu plus le ballon et qu'il se marchait un peu moins sur les pieds.
Ouais. Mais Khadri, ça correspond aussi à un moment où Khadri était peut-être un petit peu moins bien aussi dans la saison. Donc moi, j'ai jamais trouvé que la complémentarité entre les deux joueurs était évidente. Là, tu prends un mec qui a le même pro, qui occupe le même poste, qui va jouer numéro 10, je pense. Et qui a quand même beaucoup de différences avec Rémi Cabella. Moins dribbleur, beaucoup plus collectif, plus tendance à faire jouer ses coéquipiers. Et je pense que ça va donner de très belles choses.
Sur pied gauche, c'est une arme de destruction massive, sur les coups de pied arrêtés. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs qui se débloquent sur des coups de pied arrêtés, directs ou indirects. Il a cette faculté, Riyad, à pouvoir tirer des coups de pied excentrés, corner et des coups francs directs. Donc forcément, qui débloquera aussi des situations avec son pied gauche.
Mais la question, c'est de savoir maintenant comment ça va jouer, avec ou sans Berić. Avec Khadri dans l'axe ou avec
j'allais conclure là-dessus en disant qu'il sera intéressant de voir comment Riyad Boudbouz est capable de refonctionner avec Khadri plusieurs années après.
Ils vont repartir de nouveau avec peut-être Khadri en 9 ou Berić.
Je pense qu'il faut. Ici, un des enseignements, c'est qu'il faut jouer avec Robert Berić en numéro 9.
Je pensais qu'ils allaient se positionner justement sur la question enfin du numéro 9 du côté de Saint-Etienne. Ça fait
il est très bon, Robert Berić.
La question se posera si Loïs Diony libère un poste.
C'est un bon joueur forcément, mais force est de constater qu'il est souvent blessé, qu'il a du mal à il a eu une grosse blessure, c'est vrai.
Les 6 derniers mois où enfin il le met titulaire. En plus, j'avais eu Justin ce matin au téléphone, il m'avait dit qu'en fait il n'avait pas fait jouer en début de saison,
c'était pour un bon joueur, mais il s'est jamais vraiment imposé non plus.
Il n'est pas
indiscutable à un moment donné. On lui a préféré Diony, donc il a jamais été un titulaire indiscutable du côté de Saint-Etienne.
Franchement.
Alors il a été coupé dans son élan par cette blessure. C'est une certitude.
Parce que quand il arrive,
mais depuis
c'est quelque chose. Hein.
Mais depuis son retour de blessure, bon.
Timothée.
Non, la vérité, c'est que je suis très très curieux de voir comment Ghislain Printemps va jouer, mais qu'il est fort probable que Berić joue beaucoup de matchs à domicile parce qu'il est extrêmement important quand l'équipe a le ballon, a la possession et doit faire le jeu.
En tant que supporter des Verts, est-ce que tu estimes aujourd'hui que Robert Berić c'est suffisant à l'attaque pour mener l'attaque de l'AS Saint-Etienne
sur
toute l'année,
en complément de Wahbi Khadri? Oui.
Donc toi, tu joues avec Wahbi Khadri numéro 9.
Avec Wahbi Khadri numéro 9 et avec surtout la possibilité, on en parlait hors antenne, de voir Charles Abi pousser un petit peu. D'accord. Qui est un jeune qui a gagné la Gambardella. Ça fait trois possibilités en position de 9. Ça me semble intéressant, peut-être un peu court pour l'Europa League.
Ils sont pas mal les 6 derniers mois de Berić quand même. Quand il a la confiance et qu'il est aligné, je ne sais, j'ai plus ses stats en tête, mais il marque assez fréquemment. Il fait une très belle seconde partie de saison. Comme ça, c'est correct.
Et surtout à domicile. Voilà pour l'AS Saint-Etienne. On n'a pas tout à fait le tour. On n'en fera jamais le tour. Mais on va passer à autre chose dans un tout petit instant. On reçoit Olivier Dalloglio qui vient nous présenter le Stade Brestois durant la deuxième heure de l'After. On vous parlera de votre joueur de cœur et puis on jouera évidemment. À tout de suite dans l'After.
RMC, l'After Foot, Timothée Mémon.
Vous êtes dans l'after, il est 22h24, vous avez fait un excellent choix de nous rejoindre parce qu'on a une émission très riche, on ne va évidemment pas s'ennuyer dans une vingtaine de minutes, on vous donne toutes les informations mercato de cette journée, elle a été riche cette journée, c'est Saber Desfarges qui viendra nous en parler, mais avant cela, on va vous parler des petits, entre guillemets, c'est comme ça qu'on les appelle avec un peu de condescendance, on a une dizaine de jours de la reprise de la Ligue 1 et on aura
comme mec, toute manière, on le sait.
Largement le temps de vous parler du Paris Saint-Germain. De Lyon, de Marseille, de Lille. Aujourd'hui, on a voulu s'intéresser à nos petits nouveaux avec l'infocus sur Brest. Olivier Dalloglio, l'entraîneur de Brest, est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir Olivier. Salut Olivier.
D'abord, ravi de vous retrouver sur un banc de Ligue 1. On va purger tout de suite cette question, mais on est obligé de la poser. On vous avait laissé en décembre dernier. Vous aviez été démis de vos fonctions à Dijon. Est-ce que l'épisode est digéré?
Oui, obligé de passer à autre chose, effectivement, hein. Donc, puis, en 6 mois, il s'est passé plein de trucs. Donc, oui, je suis passé à autre chose, notamment sur le projet de Brest que l'on m'a proposé et qui me tend les bras et qui me plaît bien.
Alors, parlez-nous, justement, de Brest. C'est assez rare de voir un entraîneur comme Jean-Marc Furlan, en l'occurrence, amener une équipe en Ligue 1 et ne pas rester sur le banc. Est-ce que ça change quelque chose pour son successeur, pour vous?
Oui, il faut dire que c'est tout à fait original, hein. C'est pas tous les jours que l'on voit ça. Sous la plupart du temps, l'entraîneur monte avec son équipe. Qu'est-ce que ça change pour moi? Il faut que je prenne le train en marche quelque part parce qu'il y a quand même une dynamique. Je tiens compte de cette dynamique qui a animé toute la région de Bretagne, donc la saison dernière. Donc il y a un groupe qui est en place. On garde l'ossature. Donc moi je veux surfer sur cet état d'esprit, ces talents qu'il y a eu la saison dernière. Donc je m'adapte automatiquement à ce groupe et petit à petit je vais amener ma patte.
À Brest, vous avez trouvé quel type d'ambiance, que ce soit dans l'ambiance de travail au club et puis plus généralement dans cette ville qui est assez particulière. Pour ceux qui connaissent Brest, c'est une ville un petit peu spéciale, c'est ce que j'appelle ces villes du bout du monde où il y a un petit quelque chose de particulièrement sympa.
Ah, c'est sûr que sur la ville de Brest que j'ai découvert, parce qu'en fait... moi, je connais quand on se déplace, on connaît le stade, on connaît l'hôtel, mais on connaît pas vraiment la ville. Donc, c'est d'abord une ville qui est tout à fait originale, une région qui est vraiment un petit peu différente. C'est presque une presqu'île. Il y a une mentalité, beaucoup de solidarité. Et en fait, on sent beaucoup de solidarité, on sent beaucoup d'engouement pour le football. Mais ça, c'est toute la Bretagne. Donc ça, ce côté-là, c'est quand même vraiment, vraiment intéressant parce que j'arrive dans une terre de foot, quoi.
Et sur l'ambiance de travail?
Sur l'ambiance de travail, effectivement, ils sont restés sur cette montée quand même qui a été une belle fête. Je l'ai suivi moi de loin. Elle est encore dans toutes les têtes. Donc petit à petit, bien sûr, on va se rapprocher du championnat et on va passer à autre chose. Mais de l'ambiance du travail est plutôt, j'allais dire, conviviale et studieuse. Mais il y a beaucoup de rigueur aussi dans cette équipe que je découvre.
Alors, juste avant de laisser Jonathan Macardy et Ludovic Obraniak vous poser quelques questions, juste une petite revue d'effectifs. Alors, on va rappeler un 11 type qui se dégage. On sait que les entraîneurs n'aiment pas trop ça. On devrait avoir dans la cage Larsonneur, une défense avec Bello, Bain, Castelletto, Perrault, voire Fossurier en défense. Un milieu de terrain court, Belkebla, Diallo, Grand Cyr. Ça fait partie des recrues côté Brestois. Charbonnier, Autrey, devant. On a l'impression justement devant avec Charbonnier, Autrey, Grand Cyr que vous êtes armé. Est-ce que ça manque pas un petit peu d'expérience derrière?
Disons que ça manque. On cherche encore un défenseur expérimenté. Effectivement, on a des jeunes joueurs en devenir. On cherche aussi éventuellement suivant le marché de mercato qui est bien long et qui s'étire jusqu'en septembre. On cherche milieu de terrain, on cherche un peu de maturité, effectivement. Même devant, si on peut avoir un joueur qui nous amène un petit peu de maturité, ça sera pas plus mal. On a besoin d'avoir ça pour encadrer des jeunes qui sont, pour ma part, je trouve très talentueux, qui vont découvrir pour beaucoup la Ligue 1 et qui ont vraiment le désir de devenir des joueurs de Ligue 1. Mais pour ça, effectivement, il faudra qu'on encadre par un ou deux joueurs un peu plus matures, effectivement.
Bonsoir Olivier. Bon, on va pas se mentir. L'entraîneur qui a précédé votre arrivée a une forte identité et son identité est ancrée dans le jeu du Stade Brestois depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce qu'on fait quand on est entraîneur et qu'on arrive comme ça? Est-ce qu'on se sert de ce qui a été établi avant ou alors on essaye de créer une espèce de rupture justement pour faire passer ses idées de suite? Comment vous allez...
Non, il n'y a pas de rupture. Non. Du vraiment la continuité de ce que fait Jean-Marc Furlan, que je connais bien, que j'apprécie. Je pense que j'ai été aussi un petit peu choisi par rapport à ça.
Bien sûr.
Avec une culture du jeu, de rechercher du jeu. Après, je pense que quand on monte en Ligue 1, par rapport à la petite expérience que j'ai, il faut amener une rigueur défensive. Moi, je pense que je vais commencer par là. J'ai déjà commencé par là, à amener un petit peu un côté un peu plus rigoureux au niveau défensif dans une organisation. Mais après, sur le reste, moi, je surfe un petit peu sur ce qui se dégage de cette équipe au niveau offensif, qui a déjà certains automatismes. Il est hors de question que je casse ça. Moi, je vais chercher à l'améliorer, à ma manière, bien sûr, mais je vais être dans une certaine continuité.
Jonathan Macardy.
Bonsoir Olivier. Avant l'émission, on discutait, on disait on a suivi avec beaucoup d'admiration ce qu'a fait Jean-Marc Furlan, qui est un des entraîneurs chouchous de l'after avec le Stade Brestois. On disait quand même choisir Dalloglio pour remplacer Furlan, c'est quand même logique. Vous êtes deux entraîneurs qui avaient des ambitions offensives, qui aimaient bien faire jouer vos équipes. Et moi, la petite question que j'ai, c'est par rapport à ce qu'on dit de Jean-Marc Furlan. Vous savez que c'est l'entraîneur qui a tendance à faire un petit peu le yo-yo, Ligue 1, Ligue 2. Enfin, il monte, il redescend tout de suite. Vous, qu'est-ce que vous pensez à pouvoir apporter, outre la rigueur défensive dont vous avez parlé, outre la rigueur défensive dont vous venez de parler, pour faire pérenniser le Stade Brestois en Ligue 1?
Déjà, il faut pour le pérenniser, c'est que automatiquement dans le recrutement, déjà, il faut qu'on amène ce que je disais tout à l'heure, un peu plus de maturité, parce que je pense sincèrement qu'il y a un groupe qui peut atteindre le maintien, puisque dans un premier temps c'est l'objectif. Mais ce groupe-là a une marge de progression si on arrive à l'encadrer. Donc la première des choses, ça va être le recrutement. En fait, faut qu'il soit assez judicieux. Je pense que jusqu'à présent, il me plaît bien. Voilà, il me plaît bien. Maintenant, il faut qu'on le finalise. Et on est tout à fait conscient au niveau du club qu'on a besoin de cette
maturité. Le marché, il est lent cette année, hein, coach. Hein.
Bon,
il met du temps à démarrer. Là.
Ça devient infernal, même, c'est-à-dire pour les coachs, parce que même quand on discute entre nous, notamment sur les matchs amicaux, on a le temps un petit peu d'en discuter. Sportivement, c'est compliqué. Le mercato qui dure comme ça aussi longtemps, on prépare des équipes qui ne sont pas complètes.
Ouais, bien sûr.
Voilà, on demande d'être performant de suite, c'est pas évident du tout. Mais ça, ce mercato, pour moi, est trop long et je milite, moi, pour le raccourcir. Ça, c'est clair. Maintenant, pour répondre à la question de tout à l'heure, effectivement, il faudra aussi, moi, j'ai des idées aussi de pouvoir améliorer l'équipe à ma manière. Hein, même si je vais vraiment surfer sur ce qu'a fait Jean-Marc, mais après, derrière, chacun est différent et je pense que on peut jouer un peu différemment. Je pense peut-être travailler un peu plus sur la profondeur, voilà, pour être un peu plus précis, la possession mais la profondeur aussi.
22h33 dans l'after, Olivier Dalloglio, l'entraîneur du Stade Brestois, est avec nous et une question pour Ludovic Obraniak.
Olivier, moi je suis le jeune retraité que je suis, qui s'orientera forcément à un moment ou un autre sur une formation d'entraîneur, se demande, j'ai trouvé assez injuste la manière dont vous avez été remplacé du côté de Dijon, alors on va pas refaire l'histoire, mais... Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un entraîneur à ce moment-là et qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 6 mois? Ça m'intéresse.
De la peinture?
Alors, sur les 6 mois, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un entraîneur? On est toujours déçu parce qu'on n'a pas fini le boulot, donc, quelque part. Moi, j'avais pas fini ma saison et je pensais que j'avais d'autres arguments, notamment sur le mercato d'hiver, puisqu'on avait ciblé le mercato d'hiver pour rebondir. même si on a des moyens limités. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. J'en suis, j'ai beaucoup de regrets par rapport à ça, parce que c'est un club, disons, que j'aime beaucoup, et j'y suis resté 8 ans et demi, donc c'est pas le hasard. Après, sur les 6 mois, j'ai fait pas mal bosser, j'ai dit entre guillemets, même si je me suis reposé quand même pas mal, mais en même temps, j'ai remis à plat toutes les années où on a la tête baissée, on pense, on n'a pas trop le temps. Donc j'avais repris, par exemple, toutes mes séances, peut-être les simplifier ou les améliorer, et puis les trier quelque part. Donc j'avais quelques cartons comme ça à trier, donc déjà ça m'a pris pas mal de temps. Après, j'ai l'occasion de... Je suis allé à Clairefontaine, je suis allé voir un petit peu ce qui se faisait, on m'a invité. J'ai apprécié aussi de rencontrer les entraîneurs qui sont en formation pour me remettre un petit peu aussi en question et apprendre.
Est-ce que vous avez été sollicité assez rapidement, ou est-ce que la crainte justement que cela ne vienne pas vous a hanté justement pendant tout ce temps-là?
Oui, de toute façon, il y a toujours le marché est pas simple quelque part, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs. Dans ma tête, on m'a toujours dit mais de toute façon tu vas retrouver et tout. Moi personnellement, j'avais aucune garantie de rien du tout. Moi ce qui m'importait, c'était de retrouver un projet qui soit à taille humaine et que je sois je me sente bien. Donc effectivement, il y a toujours une part de doute qui s'installe là-dessus. Maintenant, je me suis préparé, c'est-à-dire au cas où je trouve un projet, comment ça s'est produit, j'étais préparé déjà à savoir comment j'allais travailler et de quelle manière j'allais rebondir.
Olivier Dalloglio, les gens ne le savent pas, ou peu le savent, vous êtes un peintre émérite. C'est l'une des solutions que vous avez pour vous ressourcer. Vous avez pu vous installer à Brest, un petit espace, un petit atelier, un chevalet, c'est tout bon?
Ouais, c'est fait. Ouais, alors c'est vraiment un peintre, mais pas émérite, mais c'est un peu de temps chez moi. Ouais. Donc je gribouille pas mal. C'est vraiment le mot. Je gribouille, j'aime l'art. Mais je me suis installé un petit coin pour gribouiller de temps en temps, le week-end, quand j'ai un peu de temps. Mais j'avoue que quand j'ai eu du temps pendant 6 mois, là, je pense que j'en ai un peu moins quand même. Faut bien avouer.
Alors on n'est pas sur France Culture, hein, c'est l'after. On va donc reparler de football rapidement. On a l'impression qu'il y a 10-15 ans en Ligue 1, les équipes, les promus n'avaient d'autre solution que de bétonner pour se maintenir. Ça a changé. Le jeu à tout prix, créer quelque chose, c'est devenu une obligation. C'est un sentiment que vous partagez. C'est une philosophie que vous allez mettre en place avec Brest. Vous l'avez déjà mis en place par le passé avec Dijon. Vous allez perdurer, persister dans cette optique?
Ouais, j'ai envie de perdurer dans cette voie-là. Après, bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Il faut d'ailleurs quand on est monté avec Dijon, c'est la première question qu'on m'a posée. On me posait souvent la question: est-ce que vous allez garder la philosophie de la Ligue 2 pour vous maintenir en Ligue 1? J'ai dit oui, parce que je sais faire ça et que j'ai envie de faire ça et que le public demande ça quelque part. Et les joueurs que j'avais aussi étaient habitués à ça.
Mais au final, ça s'est plus vu la deuxième saison, coach.
Pardon ?
Ça s'est plus vu la deuxième saison.
Ça s'est plus vu, mais la première saison, on est parti quand même sur cette philosophie-là. Alors ça a été plus, j'allais dire, à l'arrache. On est monté, il a fallu attendre la dernière journée ou la 20e journée pour se sauver. Effectivement, ça a été plus dur la première année. La deuxième année, ça s'est un peu plus vu parce qu'on avait un peu plus de moyens et qu'on a un peu plus investi là-dessus. Mais garder la philosophie, je réponds oui. Je garde la philosophie là-dessus. Après, bien sûr, chaque fois je dis, on partira pas la fleur au fusil.
Bien sûr, ouais.
Mais moi, j'ai vraiment des idées de pouvoir jouer, de pouvoir construire. Et la saison dernière, j'ai vraiment aimé ce qu'a fait Reims et Nîmes. Les deux, tout à fait,
dans deux sites différents. Ouais. Et écoutez, on a souvent eu Jean-Marc Fulan l'année dernière qui nous parlait de votre joueur qui votera tout numéro un, qui est Gaëtan Charbonnier. Jean-Marc Fulan nous expliquait un petit peu son caractère, un petit peu atypique et la relation un petit peu particulière qu'il pouvait avoir avec lui pour le motiver, pour le maintenir, sous tension toute l'année. Vous, est-ce que vous avez, quels sont les premiers échanges que vous avez pu avoir avec lui et est-ce que vous lui avez fixé des objectifs en nombre de buts, en nombre de passes décisives, en nombre, de performances?
Non, en termes de but comme ça sur des résultats, non, jamais. Je le fais jamais. Par contre, l'objectif de rester en Ligue 1, de devenir un joueur de Ligue 1, pour moi, c'est un joueur de première division. Je lui ai dit clairement, ça c'est sûr. Ça se voit de suite. Après, il y a eu des aléas dans sa carrière qui ont fait que il s'est retrouvé en Ligue 2 puis qu'il s'est éclaté la saison dernière. C'est sa meilleure saison, arrivé à 30 balais. C'est bien, mais moi aujourd'hui, l'objectif que je lui fixe, c'est de rester en haut, quoi, de rester en Ligue 1. Il en a largement les moyens. Après, c'est vrai que c'est un joueur atypique qu'il faut laisser un petit peu évoluer. Il faut adapter un petit peu les joueurs qui sont autour de lui, surtout. Parce que il a une capacité, j'allais dire, athlétique et technique qui sont quand même de très haut niveau.
Olivier, j'aimerais avoir votre avis sur les certaines hypothèses qu'on avance par rapport au rôle de coach aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, coacher, c'est plus du management et de la communication plutôt que le reste?
Aujourd'hui, c'est... ce que je pense, moi, c'est que la communication en interne, dans un club, elle est primordiale. Elle est primordiale entre un entraîneur et ses joueurs, mais avec son staff, avec les administratifs, avec tout le monde. Elle est essentielle. Après, le management avec les joueurs, oui, je pense qu'il faut... Aujourd'hui, on est sur des générations qui ont besoin de comprendre pourquoi, dans quel sens on les fait travailler, pourquoi tel exercice, pourquoi on fait telle chose. Voilà, ils ont besoin d'avoir des explications et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Voilà, aujourd'hui, pour moi, le management, il est plus dans ce sens-là. Moi, quand j'ai joué, j'écoutais l'entraîneur et puis même et si je n'étais pas d'accord.
Ça ira mieux quand on rétablira le service militaire obligatoire.
Pardon ?
Je disais, ça ira mieux quand on rétablira le service militaire obligatoire. Et je rigole qu'à moitié. Oui.
Olivier Dalloglio est avec nous. Deux dernières petites questions, Olivier, très rapidement. Le mois d'août, ce sera la réception de Toulouse, un déplacement à Saint-Étienne, la réception de Reims, un objectif comptable?
C'est toujours compliqué. Vous savez, la saison dernière, j'ai gagné 3 premiers matchs. Donc, à l'arrivée, ça ne m'a pas vraiment souri. Donc, je pense que c'est surtout dans les premiers matchs. J'ai besoin de voir, de ressentir l'attitude, l'état d'esprit des joueurs. Après, on sait très bien que il y a toujours un côté aléatoire des résultats. Et puis après, on sait très bien que peut-être nos adversaires seront pas tout à fait au point. Peut-être que nous non plus, on sera peut-être pas tout à fait au point. Et que la saison, elle sera vraiment lancée qu'en septembre. Maintenant, si on peut gratter des points, on les prend.
C'est important.
On vous le souhaite pour terminer. La question un petit peu débile, est-ce que c'est plus dur de maintenir Dijon pendant 6 ans ou de faire gagner le titre au Paris Saint-Germain?
Je pense que c'est plus dur pour Dijon quand même de se maintenir.
Olivier Dalloglio, merci beaucoup. Merci Olivier d'avoir été avec nous.
Bonne saison.
On vous souhaite une bonne saison avec le Stade Brestois, avec son magnifique public, parce que l'ambiance à Brest, c'est quelque chose. Très bonne saison. À vous signaler tout de même qu'on vous fait gagner cette semaine dans l'After. On vous offre des places pour le match LOSC AS Roma. Ce sera ce samedi au Stade Pierre-Mauroy. Que vous soyez Lillois ou que vous encouragiez l'AS Roma, profitez d'un match en fan zone pour emporter vos places. Eh bien, rendez-vous au 7-32-16. Vous envoyez place, PLACE, au 7-32-16.
Il y aura le Dobrak
au buffet en plus. Place à mes côtés, bien sûr.
Ah, c'est une place à côté de toi
À côté, au buffet.
Vous aurez droit
c'est
au
roi du buffet.
Au regard bleu glacé de Ludovic Obraniak en prime. On se retrouve dans un instant avec Saber Defarge. Il va venir nous parler de toutes les informations du mercato. A tout de suite dans l'After.
RMC. L'After Foot. Timothée Mémon.
22h44, vous êtes dans l'after, c'est jusqu'à minuit. Après Riyad Boudbouz, après Olivier Dalloglio, on reçoit Saber Desfarges. C'est tout simplement le Mercato Show.
C'est combien ?
30 000.
Attends, je vais te le manger.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, les laisse tomber. C'est lui, c'est 30 000.
27 000 avec le tam-tam. 27 000 avec le tam-tam. Est-ce que c'est à peu près la somme de Nicolas Pépé qui est à Londres, mon cher Saber?
Ça va, Tim? Ça va, tout le monde?
Bah,
exactement.
Ça va bien.
À Londres, Nicolas Pépé qui a passé sa visite médicale. Ça y est, officialisation attendue dans les prochaines heures, comme annoncé par RMC Sport hier. L'Ivoirien fait savoir sa décision au dirigeant lillois de rejoindre les Gunners, puisque le LOSC s'était mis d'accord avec trois clubs financièrement, mais le joueur et son entourage avaient retenu seulement deux clubs dans les négociations, à savoir Arsenal et Naples. Et c'est finalement donc le club de Londres qui a remporté entre guillemets la mise. Oui. Arsenal va signer un chèque de 80 millions d'euros hors bonus et Nicolas Pépé va s'engager 5 ans.
Tiens Ludo, si ça avait été Naples, on avait parlé d'Adamounas dans la transaction. C'est un regret de ne pas le voir arriver à Lille, a priori.
C'est pas interdit qu'il puisse signer à Lille sans qu'il y ait Nicolas Pépé qui signe à Naples.
Tu aurais aimé le voir? Tu aurais aimé le voir? Tu aimerais le voir à Lille?
Ouais, ouais, pourquoi pas. C'est un joueur particulièrement talentueux, technique. Il va manquer quelqu'un du coup sur le côté droit. Pourquoi pas? Après, il a pas la vista, il a pas la vitesse de Pépé, mais sur le la qualité technique, la capacité de rentrer sur son pied gauche, ouais, pourquoi pas.
Est-ce que c'est le genre de joueur qui rentrerait dans le système de Galtier?
Pas sûr.
Voilà.
Pas sûr.
Le profil, je pense pas. Ça enlèverait à ses qualités, mais je pense que Galtier cherche un joueur qui a tendance à moins tricoter, mais aller plus directement vers l'avant.
Ils cherchent en tout cas 2 à 3 renforts offensifs supplémentaires, les Lillois, donc ils vont se montrer assez actifs sur le marché des transferts. Ils en ont les moyens et ils vont se renforcer encore.
Les caisses sont pleines là-bas.
Et ce sera d'ailleurs le thème du Mercato Show de demain. Teasing parfait,
voilà,
de Saber Desfarges qui connaît son métier.
Quel homme.
Raphaël Léao arrive à Milan.
Ouais, il est en Lombardie, le Portugais, depuis ce matin, comme annoncé également par RMC Sport. L'attaquant de 20 ans va s'engager à l'AC Milan contre un chèque de 35 millions d'euros. Plus 20% du prix total à la revente. Visite médicale passée aujourd'hui. Et puis dans le même temps, Thiago Diallo, espoir brésilien de l'AC Milan toujours, défenseur central, va lui faire le chemin inverse.
Raphaël Léao, il avait été acheté une dizaine de millions d'euros.
Gratuit.
C'est
d'ailleurs dans cette histoire, il y avait quand même une embrouille avec le Sporting, non? Qui a pas.
Ça a été réglé, je crois, Ludo.
Ça a été réglé ou pas?
C'est quasiment réglé.
C'est pas encore le cas.
Les détails exactement, je les ai pas encore. Mais quoi qu'il en soit, aussi bien côté Milanais que côté Lillois, on se veut relativement confiant quant à la réussite de ce transfert.
Il y a un mercato qui patine dans la semoule, c'est celui de Monaco et le FC Porto a refusé une offre des Monégasques.
Oui, le club portugais qui a annoncé cet après-midi, qui a communiqué directement Porto, qui a donc annoncé avoir refusé une offre de Monaco pour Danilo Pereira. Porto est même allé un peu plus loin puisqu'il a déclaré son milieu de terrain portugais de 27 ans intransférable cette saison, ce qui met un terme à tout type de spéculation dans ce dossier. Fin de communiqué, Monaco aurait fait une offre de 30 millions d'euros, mais Monaco ne serait pas contre à l'idée de renchérir dans quelques jours.
Jonathan, on a parlé un peu la semaine dernière, le mercato de Monaco, on a l'impression que ça va de Karim Dansila.
Alors tu crois qu'ils vont faire signer des joueurs et puis il y a toujours quelque chose qui se passe au dernier moment, une visite médicale, un manque, je sais pas, il y a des accords financiers. Alors là, Silva, c'était l'exemple parfait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Monaco montre qu'ils sont prêts à dépenser des sommes allant, on parle de 30 millions, Silva, c'est aussi une trentaine de millions d'euros.
Un petit peu moins, exactement.
Monaco a quand même toujours des moyens pour faire un beau mercato. Après, juste pour finir, le mercato cette année, je sais pas ce que t'en penses, Saber, mais ça va tout lentement. Ça tarde
à
démarrer.
Oui, mais ça peut s'accélérer à tout moment. En fait, je pense que tout dépend aussi de certains gros dossiers. Quand on verra justement des joueurs peut-être un petit peu plus importants quitter.
Ça fait des dominos.
Je pense à Paul Pogba, ça peut très vite ensuite derrière s'enchaîner.
Le retour tardif des Anglais sur le marché fait que c'est eux qui ont le plus à dépenser. Et quand eux, ils vont aller chercher des joueurs dans des clubs un peu moins huppés, que ce soit chez nous ou ailleurs, l'argent va circuler. Donc
et le mercato, d'ailleurs, le marché transfert va se fermer le 8 août en Angleterre. Résultat, durant cette dernière semaine d'août, je pense que les clubs anglais peuvent se montrer
la semaine d'août, absolument, qui va accélérer probablement
faut être patient cette année, je pense, vraiment.
Mais
être patient,
on va pas se mentir, c'est plutôt un bon signe que Monaco mette un peu le pied sur le frein. Ils ont fait énormément de deals ces dernières saisons, toujours à bon escient, donc le fait qu'ils réfléchissent un petit peu plus, qu'ils soient un peu plus mesurés, honnêtement, moi je trouve ça plutôt positif.
Falcao, justement, puisqu'on parle de Monaco, ouais, est tout proche d'un départ.
Ouais, ça,
de
mauvaise nouvelle, ça, par contre.
Ouais, le Colombien qui négocie actuellement avec Galatasaray. Le club sambouliote a même proposé une très belle offre à Falcao qui ne le laisse pas du tout insensible. Falcao, on le rappelle, il est lié jusqu'en juin 2020 à l'AS Monaco et les dirigeants monégasques ne seraient pas opposés à l'idée de libérer de sa dernière année.
Donc, tu n'as plus d'attaquants. Vinicius et Falcao.
Et Jovetic qui est blessé.
Il y a Pellegrini.
Ouais, Pellegrini, ouais.
Il y a Pellegrini. Ouais, mais bon, il a quel âge? Il a 17 ans.
Ouais.
C'est un peu compliqué. Non, mais c'est impératif qu'il
recrute un numéro 9. Blessure.
Ouais, c'est impératif qu'il recrute un numéro 9, ça on le sait. Après, c'est un marché qui est tellement particulier, le marché des numéros 9, que, comme tu l'as dit, il faut attendre. Faut attendre que les clubs anglais réagissent. Mais à mon avis, ça va se faire. Je pense que Silva, c'est pas totalement mort.
Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je n'ai pas de réponse.
Vous avez une idée là comme ça à brûle pour point de numéro 9 sur le marché qui pourrait fitter entre guillemets l'effectif de Monaco?
Le problème c'est qu'aujourd'hui tu peux espérer un coup d'un joueur trentenaire qui joue peut-être plus dans son club, dans un club européen à ses côtés, qui sera intéressé par le fait de venir et d'avoir une petite exonération fiscale. Il y a que sur ces joueurs-là que tu peux te positionner aujourd'hui un top attaquant dans son club, dans le top 5 européen. Difficile à aller chercher pour l'AS Monaco.
D'après différents médias espagnols, l'AS Monaco sera intéressé par Mariano Diaz.
Parce que tu as quand même perdu en attractivité avec cette saison un peu
ratée. Mariano Diaz, ça serait une très bonne idée. Ça serait une très bonne idée.
Odon Igalo, le Nigérian.
Mais il est trop vieux.
Trop âgé.
Il a quel âge? Il a 31, 32?
Il a une trentaine d'années, effectivement. Sinon, il joue en Chine.
C'est trop âgé.
Il y a aussi cet avantage fiscal.
Tu sais que Monaco est quand même dans l'optique, toujours de rentabiliser ses joueurs.
Il te faudra quand même un mec d'expérience devant pour tenir un peu la
gueule. Igalo, ou même, on pourrait penser à, je sais pas, Stuani, l'attaquant uruguayen qui joue à Riron, qui a marqué une palanquée de buts en Liga. Mais, le potentiel à la revente, il est zéro. Alors que Mariano Diaz, je trouve qu'on lui a fait beaucoup de procès quand il était à Lyon. Mais l'année qu'il fait à Lyon, très franchement, il a marqué ses buts. Il s'est pris la tête avec Memphis Depay, mais comme beaucoup d'autres se seraient pris la tête, voilà. Mais ça reste un bon attaquant, et je pense que ça pourrait être une bonne idée.
Si j'avais eu un peu d'argent, je l'aurais mis sur Moiskin, qui va partir peut-être à Everton. À 60 millions, c'est ça?
Il y a Coutronnet qui a signé à Wolverhampton, et puis Everton aussi risque de faire signer d'ici quelques heures. En tout cas, d'après certains médias italiens, ça va se faire. Moiskin, l'attaquant de la Juve.
Ouais, c'est ça. À 60 millions.
C'est ça.
Coutronnet, ça aurait pu être très bien pour Monaco.
Un peu d'argent. Hein
Coutronnet, oui,
ça aurait pu être très bien pour Monaco. Jeune, italien, donc il y a la filière, tu vois, la proximité géographique. Ouais. C'est un joueur qui est plein de talent, qui a un petit peu, voilà, qui a pas vraiment réussi sa saison au Milan. Ça aurait pu être un fit parfait pour Monaco.
On a pas mal de bonnes idées. Toujours est-il que ça n'avance pas côté monégasque et ça inquiète Nicolas, qui est supporter de Monaco, qui nous a rejoint au 32-16. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir les amis.
Bonsoir Nicolas. Salut Nicolas.
De l'inquiétude, Nicolas?
Ouais, de l'inquiétude. Là, j'entendais pas mal parler des dossiers des attaquants, notamment Mariano Diaz. Moi, je rejoins complètement Joe. Pour moi, c'est un attaquant qui peut faire du bien à l'AS Monaco, qui en plus connaît déjà la Ligue 1, donc c'est déjà un avantage. Mais moi, par contre, c'est surtout sur le secteur défensif que je m'inquiète beaucoup. Les Jamerson, même Glick, alors quel Glick on aura, ça reste à voir, ça reste quand même quelqu'un de relativement fiable, mais bon, les années passent malheureusement.
C'est Jamerson la catastrophe.
Mais Jamerson, c'est pas possible. Et puis l'autre, là, pardonnez-moi, qui est âgé aussi, qu'on a fait venir en janvier là.
Naldo.
Ouais, Naldo. Moi, je trouve pas ça hyper fiable. Nos latéraux, quid de Sidibé qui risque de partir. Alors, si j'ai bien compris, s'il y a des parts de Sidibé, on irait sur Aguilar de Montpellier. Ça, c'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal.
C'est très bien.
Mais là, défensivement, moi, je trouve ça vraiment très... On n'est pas armé pour moi pour faire une saison en Ligue 1. Heureusement qu'on a eu... on a réparé le problème du gardien qui posait problème l'année dernière, parce que Souba, il était pas du tout, il était blessé. Puis Benaglio, il faisait ce qu'il pouvait, mais c'était vraiment très limite. Là, le compte, c'est quand même du costaud. Moi, je suis content d'être recrue là. Mais après, faut reconnaître que ça bouge pas.
Nicolas.
Alors, oui.
Franchement, quand on regarde l'effectif de Monaco et le 11 que tu peux aligner, oui. Je pense qu'il faut pas être si alarmiste que ça. Donc, il va falloir remplacer Radamel Falcao, qui est toujours là, qui n'est pas encore parti. Et je pense que si Falcao part, il y aura un avançant qui va venir. Et Mariano Diaz, ça me semble être une très bonne idée. Mais si tu fais Mariano Diaz pour remplacer Falcao, et allez, que tu arrives à chercher un défenseur central de qualité pour remplacer Jemerson, qui a la rue depuis deux ans,
le gros chantier,
t'as un 11 qui tient la route.
Le gros chantier, il est derrière, clairement.
Ouais.
il faut tout revoir. Même en défense centrale, Camille Glick, il est plus fiable. Jamerson, c'est plus fiable.
Jamerson, moi, j'ai plus Glick, peut-être encore.
Si Dibé veut partir, je sais pas si c'est vraiment bien qu'il reste. À gauche, c'est pas exceptionnel non plus. Donc tout le chantier pour moi, il est en défense. T'as réglé le problème du gardien.
C'est déjà au milieu, t'es bien.
C'est une bonne chose. Devant, t'as quand même Jelson Martins. Tu vas avoir Ronny Lopez.
Ronny Lopez.
Pour l'instant, non, il est encore là. Il est encore là.
Ce qui est surprenant d'ailleurs, parce que le montant du transfert n'est pas forcément très élevé. À 15 millions, mais je me jette dessus.
Bien sûr.
Je me jette dessus.
Merci beaucoup à Nicolas d'avoir été avec nous. On te souhaite une très très belle saison avec l'OM Monaco, en espérant que tu puisses une fois de temps en temps aller garnir un peu plus les travées de Louis II. Ça ne fera pas de mal. Elle est loin.
C'est un budget d'aller là-bas.
Elle est loin, l'époque des Nonda, des Morientes, des Dado Percho.
C'est un budget d'aller là-bas.
Ah, c'est un budget.
Tu fais la soirée, tu prends ton verre au sas, tu vas dîner au café de Paris ou au Bouddha.
Tu connais les adresses, mine de rien.
Non, mais Timothée, il connaît. Non, mais c'est un budget, c'est un budget.
Le problème, c'est que nous, on dort à l'Ibis aéroport de Nice.
Ah merde.
Malcolm va quitter le Barça.
Ouais, le Brésilien est à un pas du Zénith Saint-Pétersbourg, l'ancien Bordelais qui cherche une porte de sortie depuis maintenant quelques semaines face à la concurrence accrue. Dernièrement, évidemment, avec le transfert d'Antoine Griezmann, un accord est espéré autour des 40 millions d'euros. Dernier détail. En ce moment même, en cours de finalisation, les dirigeants du Zénith qui espèrent clôturer ce transfert dans les toutes prochaines heures.
C'est pas comme si on l'avait pas prévu.
Ouais, mais bon, c'est difficile quand même de refuser le Barça quand le Barça vient toquer à ta porte.
Sauf que quand t'es un jeune joueur, tu dois jouer. Tu privais, il avait 2-3 passes à ce moment-là. Je pense que si t'as un agent qui te conseille bien, tu privais les choses.
Mais c'est même pas ça. C'est surtout de passer du Barça au Zénith. Le Zénith est un fantastique club, mais quand t'es Malcolm, à l'âge que tu as, tu viens d'arriver au Barça, t'as encore tout l'avenir devant toi et tu peux trouver, je suis sûr, un deal avec le Barça, peut-être pour être prêté ou pour être. Mais putain, le Zénith.
Zénith, la Ligue des Champions.
Il a la capacité de pouvoir jouer encore dans un top 5 européen. Il va au Zénith. Bon, grand club, le Zénith, pas loin de moi l'idée de dire que le Zénith n'est pas un grand club.
Non, mais tu perds la visibilité vis-à-vis des autres clubs.
Mais bien sûr, si t'as un peu d'ambition, t'essayes
de rester quand t'as
réussi à faire l'exploit de signer au Barça, tu gardes quand même une cote, quoi qu'il arrive, même si t'as beaucoup de
clubs se sont intéressés
Attention,
Arsenal, Manchester United, mais à chaque fois, il n'était pas, on va dire, en haut de la liste.
Mais
ce n'était pas le premier choix de ces différents clubs. Résultat, il y avait une volonté aussi de s'inscrire sur la durée dans un club qui le souhaitait.
Ludo, il y a quand même une tradition brésilienne au Zénith. Beaucoup de joueurs brésiliens qui ont joué au Zénith Saint-Pétersbourg ont ensuite explosé en Ligue des Champions.
Ouais,
ils sont montrés.
Et Ukraine, Donetsk, pourquoi pas, mais les Zénith, c'est pas.
Aussi. Moins que le Shakhtar, ça c'est vrai, mais il y a quand même
d'autres joueurs. J'aurais bien vu à Lyon en remplacement de Nabil Fekir, moi.
Ouais, à Lyon, même à Marseille, je pense que leur a fait beaucoup de bien.
Les Brésiliens en place maintenant, je l'aurais bien vu dans un contexte, contexte lyonnais.
Est-ce que Lyon et Marseille peuvent faire 40 millions?
Messieurs, on va avancer. Alohou, bientôt à Saint-Etienne.
Ouais, le milieu de terrain est sur le point d'être prêté à Saint-Etienne, à Olou, 25 ans, qui devrait arriver jeudi dans le Forest sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Saint-Etienne qui avance donc dans son mercato, puisque les Stéphanois cherchaient encore un défenseur, les Verts qui espèrent toujours
encore
récupérer Timothée Kolodziejczak, joueur des Tigresses Monterrey, qui était évidemment prêté l'an dernier à Saint-Etienne. Les négociations sont toujours en cours, elles ne vont pas très vite.
Et puis quelques officialisations en bref.
Oui, ce magnifique club du Clermont Foot 63, Mathias Pereira-Lage, formé à Clermont, 8 années passées en Auvergne. Il a signé à Angers aujourd'hui, transfert autour des 2 millions d'euros, contrat de 3 ans. Amiens qui signe Chadrak Akolo, international congolais, prêt avec option de 3 ans. Le joueur évolue à Stuttgart. Et puis enfin Nicolas Benezé qui quitte Guingamp. Il va en MLS. Il va signer à Toronto, près de 6 mois. 6 mois avec une option de 2 saisons.
Très bien.
28 ans,
allez, Nicolas Benezé. Un petit rêve américain pour
c'est pas mal.
Pour Benezé.
Ton club descend toujours là-bas. Et puis tu vas en MLS.
Il sera
c'est Rémi Garde.
À Toronto, est-ce que c'est toujours Rémi Garde? C'est une très bonne question.
Non, c'est Montréal.
Par
contre, il sera avec Quentin Westberg. Il sera avec Quentin Westberg, qui était mon gardien de but quand j'étais à la JOCR, passé par Tours et d'autres clubs, et qui est la nouvelle icône, le nouveau chouchou de ton Roton, donc il sera bien entouré.
On sent que tu regrettes de ne pas avoir été aussi.
C'est le gros regret de ma carrière, c'est ça, c'est de ne pas avoir été en MLS.
Messieurs, 22h59, on va faire une courte pause. Juste après la pause, on va vous parler de votre joueur de cœur. Le hashtag a très très bien marché sur Twitter. On remercie Xavier Desfarges, on lui remercie également.
Quel talent, également.
Clermontois, évidemment. On se retrouve tout à l'heure et puis vous pouvez nous rejoindre pour jouer sur le 32-16 avec nous tout à l'heure pour le quiz. Mais avant cela, vous pouvez d'ores et déjà jouer puisque cette semaine, l'After vous offre vos places pour assister au match LOSC AS Roma. C'est samedi au stade Pierre Mauroy. Que vous soyez Lillois ou que vous encouragiez à l'AS Roma, profitez d'un match en fan zone avec Ludovic Obraniak qui vous apportera une coupette pour remporter vos places. Vous envoyez du PLACE au 7-32-16. A tout de suite dans l'After.
RMC L'After Foot.